Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal. D'abord les titres. La route Kalemie-Niouzou-Manono dans le Tanganyika fera bientôt peau neuve. Le gouverneur de province a officiellement lancé les travaux de réhabilitation et modernisation de cette voie hier lundi. Coût des travaux, 500 millions de dollars américains. D'autres détails dans ce journal. Situation sécuritaire tendue ce mardi dans la zone de Pinga. Cette partie du territoire de Walikale au nord Kivu est en proie à de violents combats opposant l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Notre invité, le coordonnateur de l'ONG Solidarité des parents d'enfants en situation de handicap mental et physique, Akilas Viso-Kaindo, va nous expliquer le fonctionnement de cette organisation qui encadre plus de 50 enfants en situation de handicap mental dans la ville de Butembo. Je le disais en ouverture de ce journal, la route Kalemie-Niouzou-Manono, longue de 446 km, bientôt modernisée. Le gouverneur du Tanganyika a lancé hier lundi à Kalemie les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette voie. Coût des travaux, plus de 500 millions de dollars américains avec un financement issu du partenariat public-privé. Ce projet, dont la durée est de 5 ans, permettra le désenclavement d'une grande partie de la province du Tanganyika, précise l'Agence congolaise des grands travaux. Plus d'éclairage avec Paulin Munanga.
D'après le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ces projets de construction des routes nationales numéro 5 et numéro 33 sur les tronçons Kalemie-Niouzou-Manono consistent en la réhabilitation de la route en y plaquant la couche de roulement en béton bitumeux et la construction des caniveaux dans les traversées de grandes agglomérations. Et les ponts qui sont dessués et défaillants seront également remplacés le long de la route. Le gouverneur de province revient sur l'importance pour les Tanganyika de ces projets de grande envergure. Christian Kitungwa.
Sur le plan local, ce projet va contribuer à plus ou moins 20% des activités contenues dans le programme d'action du gouvernement provincial, un plan qui vise à désenclaver la province par l'interconnexion des territoires de Niouzou à Kongolo et de Kongolo à Kabalo via Kakuyu et de Kabalo à Manono. Favoriser les échanges commerciaux, cette modernisation va atténuer le taux de l'insécurité.
Les travaux de la réhabilitation et la modernisation de la route Kalemie-Manono seront exécutés par les consortiums Fapeon Construction SARL. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
En rapport toujours avec les routes, sachez que toutes les voies de desserte agricole du territoire de Massimanimba sont dans un état de délabrement très avancé. Les véhicules n'y accèdent plus et il est difficile pour les commerçants ou les paysans d'évacuer les produits agricoles vers les grands centres de consommation comme Kinshasa. C'est l'administrateur de ce territoire du Kwilu qui l'affirme lors d'un entretien ce mardi avec Radio Kapi. Emery Kangouma ajoute que même la route qui relie la nationale numéro 1 au centre-ville du chef-lieu de cette entité est également délabrée. Il demande ainsi aux personnes de bonne volonté et aux autorités attitrées de tout faire pour sauver ces routes. Emery Kangouma est joint par Irène Mboma Luzolo.
C'est la route qui, quand vous quittez centre-ville, ou bien la route numéro 1, pour arriver au chef-lieu du territoire, une route qui a au moins 2 km. Cette route nous dérange à tout moment quand il pleut. La route est souvent victime des érosions, de l'abrément total de cette route. Mais on fait les efforts chaque mardi, les salons pour garder cette route en bon état, mais avec les moyens manuels, ça ne tient pas. C'est là où nous demandons, s'il y a les gens de bonne volonté, de venir nous aider pour que cette route soit réhabilitée très vite. Avec les différentes routes route à la recette agricole, toutes nos routes sont totalement délabrées. Ça demande des engins. Avec nos mains, c'est difficile pour que nous nous sortions. Si vous, par exemple, vous voulez sortir vos marchandises, vous louez des gens à 40 km, 30 km pour qu'ils atteignent les magadam, donc la route numéro 1. C'est difficile vraiment avec les non-commerçants d'accéder avec les routes de recettes agricoles. Les véhicules n'entrent plus. Il y a des produits qui périssent et la population s'est fatiguée. Maintenant, ils se produisent pour les manger et non pour vendre parce que les véhicules n'entrent pas. Pour faire sortir les marchandises enfin, ça, c'est très coûteux.
Secteur éducation à présent, pas de changement à Kikwit. Après presque 2 mois de mouvement de grève, les enseignements n'ont toujours pas débuté dans plusieurs écoles à la suite de cette grève des enseignants. La décision émane de l'intersyndicale des enseignants réunis en assemblée générale à la fin de la semaine dernière pour évaluer leurs revendications. D'après Benoît Kassiama, président de l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 2, les professionnels de la CRE ont noté que jusque-là, l'État congolais n'a pu accorder qu'une paye complémentaire de 100 000 francs congolais répartis en 2 tranches, soit 50 000 francs sur les 500 dollars américains proposés. Conclusion, les enseignants refusent de reprendre les classes. Rappelons que dans d'autres provinces éducationnelles, comme au Kwilu 1, cette grève a été suspendue et les cours ont déjà repris depuis lundi de la semaine dernière. Au Congo central, la synergie des syndicats des enseignants suspend temporairement la grève et ce pour 3 jours à dater de ce mardi 29 octobre. Cette décision est prise pour sauver l'année scolaire 2024-2025, disent les enseignants, afin de ne pas pénaliser les élèves, surtout ceux des classes terminales. Cette position a été prise hier lundi à l'issue d'un rassemblement. Dans son adresse, Isaac Lukombo, porte-parole adjoint de la synergie des syndicats des enseignants, a affirmé que pendant la grève, les enseignants vont suivre l'évolution de la prise en compte de leurs revendications dans le budget qui sera voté. Ces propos sont recueillis par Nana Plurich Mambou.
Quant à la grève, les enseignants de la province du Congo central réunis ici se décident de pouvoir observer une trêve de 3 mois. C'est-à-dire, comme le budget sera voté aujourd'hui, nous attendons après 3 mois le temps pour nous de chercher à pénétrer ce budget et chercher à connaître quel est le montant prévu pour le salaire de l'enseignant que nos anciens élèves que nous avons envoyés aujourd'hui à l'Assemblée nationale ont voté pour nous. C'est comme ça. Aujourd'hui, les enseignants de la province du Congo central ont daté de maintenant de rejoindre leur poste de travail.
On poursuit ce journal. Situation sécuritaire tendue ce mardi dans la zone de Pinga. Cette partie du territoire de Walikale, au nord Kivu, est en proie à de violents combats opposant l'armée congolaise et les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Toute la soirée d'hier lundi, les rebelles soutenus par le Rwanda ont attaqué plusieurs villages du groupement Kisimba près de la cité de Pinga. Bernadette Nyangi nous en dit plus.
Jusqu'au-delà des 18h hier lundi, des détonations d'armes lourdes et légères se sont fait entendre dans l'espace situé entre Pinga et le village d'Mpeti, à 18 km de cette cité stratégique située à cheval entre le groupement Kisimba et Iyana, territoire de Walikale, et le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi. Des mortiers lancés par les rebelles tombés les uns dans le village Bouraï, à 9 km de Pinga, ce qui a accentué la panique au centre de la cité qui s'est vidée à plus de 50% de ses habitants. Les uns se concentrent autour de l'hôpital de référence de Pinga, alors que les autres ont pris la direction de la brousse ou des villages voisins. Toutes nos sources précisent que les rebelles du M23 qui ont occupé totalement le village d'Mpeti s'activeraient à déborder ou vouloir faire sauter la dernière position de résistance tenue jusqu'à présent par le VDP Wazalendo au niveau du village Bouraï avant de poursuivre leur assaut sur Pinga. Ainsi, si Pinga reste jusque ce mardi matin sous contrôle de l'armée et groupe Wazalendo, la situation y demeure toujours volatile, indiquent nos sources. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
La situation sécuritaire pas toujours intéressante au Nord Kivu, nous venons de le dire. Pour preuve, au moins 10 maisons d'habitation ont été cambriolées et certaines personnes, dont un cadre de la société civile de Nyirangongo, blessées grièvement par des bandits armés la nuit de lundi à ce mardi. Les faits ont eu lieu dans la zone à cheval entre le quartier Ndosho en ville de Goma et le village Bougamba 2 en territoire de Nyirangongo. Pendant ce temps, des coups de feu ont été entendus dans la zone entre 2h et 4h du matin ce mardi. Le président du conseil des jeunes en commune de Karisimbi exige le renforcement des mesures sécuritaires et judiciaires pour faire face à cette insécurité. Claude Rougo, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangi.
Le conseil communal de la jeunesse en Karisimbi est en train de proposer que les autorités puissent déménager momentanément vers les quartiers chauds, Ndosho, Mugunga, Majengo, Kasika, Katoi, Bujovu, Keshero. Cela pourra leur permettre de bien comprendre la souffrance que traverse la population et permettre aux services de sécurité de travailler valablement aux côtés de leurs chefs. Deuxièmement, nous parlons de plus de 450 présumés criminels arrêtés sans aucun jugement. Les audiences doivent être organisées dans les quartiers insécures en vue de connaître le vrai criminel qui tue matin, midi et soir à Goma. Troisièmement, nous sommes en train de proposer qu'il y ait le bouclage systématique dans les différents cas de déplacés.
Rappelons que ce sont environ 450 présumés criminels qui ont déjà été arrêtés et plus de 200 armes récupérées dans le cadre de l'opération Safishamjiwa Goma, une opération lancée par le maire de la ville depuis 7 mois pour tenter d'endiguer la criminalité toujours en hausse dans la ville de Goma. En Ituri, les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles pour la protection de plus de 70 000 déplacés du site d'Euro dans le territoire de Djougou. Une action saluée par les comités de ces personnes déplacées qui font face aux menaces permanentes des groupes armés. Ces opérations de patrouille permettent également à ces déplacés d'avoir accès à leurs champs aux alentours du site. Reportage Ezekiel Mouzalia.
Ces casques bleus mènent des patrouilles motorisées chaque jour aux alentours du site des déplacés d'Héro. Ils se relaient la nuit et les jours pour garantir la protection des civils contre les menaces des groupes armés. Ces forces de la MONUSCO font également des patrouilles à longue portée, au moins deux fois par semaine, en vue de faciliter l'accès aux champs à ces personnes vulnérables. Selon le secrétaire du site des déplacés d'Héro, sans la présence des casques bleus, il serait impossible de vivre dans ces sites. Assimoué Héritier.
Si le site d'Héro est là, c'est parce que la force onusienne nous aide tellement. Donc la sécurité des Dero revient à la MONUSCO quand même. On serait voué à rentrer au village d'origine parce qu'on ne serait pas bien sécurisé.
Ces déplacés demandent au gouvernement de mettre fin à la circulation incontrôlée des armes qui constitue un défi majeur pour l'instauration d'une paix durable et la cohabitation pacifique. Eugène Ngabu Tupa, représentant du chef de la chefferie de Baema Nord.
Les deux communautés, Maïlendu, ils cherchent à vivre pacifiquement, mais toutefois, les groupes armés ils détiennent encore les armes, ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Même si les gens se fréquentent les marchés brisques, les groupes armés viennent de part d'autre attaquer la population marchande au marché, ce n'est pas beau.
La MONUSCO assure la protection directe des centaines de milliers de déplacés dans le territoire des Djougou. De retour d'Héro, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, en 3 ans, la fonction publique a réussi à mécaniser 171 000 agents contre 12 000 seulement en 20 ans lors des régimes précédents. C'est le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, qui l'a dit hier lors d'un briefing spécial co-animé avec son collègue Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Cet exercice de redevabilité a été placé sous le thème « Le dialogue social dans le secteur public en République démocratique du Congo ». Ces propos sont recueillis par Blaise Chindani Kambala.
Lorsque nous parlons des agents et fonctionnaires de l'État, nous devons bien dire qu'il s'agit des agents qui prestent depuis 10, 15, 20 ans, voire 25 ans, 30 ans, et qui n'étaient pas rémunérés. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités, il n'y a que 182 000 agents et fonctionnaires de l'État qui étaient rémunérés. 182 000. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour que, ne serait-ce d'abord au titre de salaire de base de manière générale, nous puissions le plus possible faire de l'inclusion salariale. Donc payer des fonctionnaires qui étaient non payés, on les appelle des NP, qui étaient là depuis 20, 30 ans, comme je venais de le dire. Et figurez-vous qu'en 3 ans, nous allons vous mécaniser 171 000. En 3 ans. Contre, vous pouvez vérifier, ce sont des, au niveau de la direction de la paye, les données qui sont tout à fait disponibles. Contre 12 800 agents en 20 ans. Lors des années des régimes précédents. Donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La volonté, elle est là, et je pense qu'elle est incontestable. Et nous continuons avec ces processus d'inclusion salariale.
Et puis cette nouvelle qui ne va pas plaire ceux qui sont à table. En Ituri, toutes les latrines publiques sont bouchées au site de l'ISP Bounia, qui héberge environ 12 000 déplacés. Une situation qui oblige surtout les enfants à déposer les matières fécales dans une cour proche des abris, avec tous les risques de maladies liés à cette insalubrité. Pire encore, pour une centaine de personnes vivant avec handicap qui se font contaminer pour se rendre aux toilettes. Ezekiel Mouzalia a porté un cache-nez pour vous proposer ce reportage.
À l'entrée du camp des déplacés de l'ISP Bounia, au cœur même du centre-ville, le spectacle qu'offre ce site est triste. Ici, des milliers de familles qui ont fui la guerre, principalement dans la chefferie de Baïma Nord, dans le territoire des Djougou, vivent dans une promiscuité indescriptible. Des maisonnettes construites en terre battue, collées les unes aux autres et couvertes de bâches, suintent à la tombée de la pluie. Témoignage.
Ce qui me choque, moi, c'est l'état de nos maisons. Nous n'avons pas d'endroit où dormir. Regarde la maison que j'occupe. Les bâches sont déchirées. La porte est cassée. Quand il pleut, nous tous à la maison nous regroupons à un seul endroit. Nous demandons aux autorités de nous aider. Même avec des bâches, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus retourner chez nous.
Tout à fait, Yannimi. Voici tout à l'heure avec les peines.
Ce site des déplacés de l'ISP Bounia compte plus de 2600 abris, des hangars qui servaient des fois des lieux de couchage pour les plus vulnérables qui demandent au gouvernement de leur venir en aide. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'adjointe au maire de la commune de Bamenda 2 dans la région du nord-ouest du Cameroun a été tuée après avoir participé à la projection publique d'un documentaire sur les réalisations du président Paul Biya, âgé de 91 ans, depuis son entrée en fonction il y a près de 42 ans. Madame Joko Frida a été enlevée à son domicile samedi par des combattants séparatistes présumés que les autorités qualifient de terroristes armés. Son corps sans vie a été retrouvé aux premières heures de ce lundi, selon les autorités locales.
L'invité.
Notre invité est Akilas Visso-Kaindo, le coordonnateur de la solidarité des parents d'enfants en situation de handicap mental et physique. Depuis 2 ans, cette structure accompagne plus de 50 enfants en situation de handicap mental dans la ville de Butembo au Nord Kivu en leur enseignant de petits métiers. Dans cet entretien avec Guylaine Kassassia, il explique le fonctionnement de cette initiative précieuse. Suivez.
Visso Akilas Mouindo, bonjour.
Bonjour, merci maman.
C'est quoi votre motivation?
Nous avons été motivés par une situation précaire des parents des enfants handicapés mentaux et physiques. Et c'est ce qui nous a motivés de les unir. Nous qui avons des enfants handicapés, nous avons été marginalisés sans aucune aide. C'est pourquoi nous avons organisé une union qui s'appelle Solidarité des parents d'enfants vivants avec handicap et débilité. C'est pour vouloir aider tant soit peu les souffrances de nos enfants d'abord, aussi pour soulager tant soit peu nos souffrances dans nos foyers.
Alors, comment se fait l'admission à votre centre et comment parvenez-vous à encadrer cette catégorie d'enfants rejetés par la société?
L'admission se fait sans aucune condition parce que nous recevons tout le monde qui a un enfant handicapé mental ou habituellement appelé débile. Il y a d'autres qui sont débiles. Et d'autres qui sont handicapés physiques, alors nous les recevons sans aucune condition. Les parents doivent être enregistrés comme membres de ce groupe parce que c'est un groupe de parents des enfants handicapés. Peut-être s'il y a un handicapé mental qui est ramassé, permettez de le dire, au quartier telle ou telle autre part, il peut être acheminé et il sera là bien encadré jusqu'à ce qu'on trouve sa famille et aller le réinsérer dans sa famille.
Nous savons très bien que la plupart des parents d'enfants handicapés sont défavorisés. Quels sont les moyens dont dispose votre structure pour fonctionner?
Les moyens que nous disposons, nous avons ouvert un centre d'apprentissage des petits métiers. Là, nous générons certaines subventions. Quand nous avons cousu des habits, nous pouvons les vendre. À partir des bénéfices que nous avons dans la vente de ces habits, nous avons à manger. Et il y a une activité de la tricoterie. Il y a des contributions des membres. Il y a aussi une activité de l'agriculture. Nous avons un petit chat de presque 1 hectare.
Est-ce qu'il y a des activités que vous apprenez à ces enfants-là?
Exactement, il y en a. Parce que parmi eux, il y a 29 enfants qui apprennent la coupe et couture. Il y a 17 qui apprennent la tricoterie. Il y a 7 qui apprennent la cordonnerie. Il y en a d'autres qui sont là suite à leur niveau d'handicap, donc une précarité, une gravité. Et ils sont là pour seulement le déstressement, parce que nous dansons, nous jouons avec eux.
Pour dire, vous les encadrez selon les niveaux de chacun, et comme d'aucuns peuvent dire que ce sont des personnes qui sont incapables, ils peuvent quand même quelque chose?
Oui, nous les encadrons selon leur niveau. Il y a un service de l'assistance psychosociale qui catégorise le niveau mental selon les QI, conscient intellectuel, et on trouve qu'il y a certains qui ont une capacité quelconque, et c'est pourquoi on les sépare. On trouve que ceux-ci peuvent aller dans tel domaine, ces autres peuvent aller dans tel autre domaine, et d'autres, ils sont là seulement pour une animation et jeu. Parce qu'on a trouvé qu'ils ont manqué une affection à partir même de leur famille dans les rues. Ils sont tabassés par-ci, par-là. C'est pourquoi on a trouvé que leur mentalité baisse par rapport aux harcèlements qu'ils courent dans leur famille et dans les rues.
Comme toute structure, vous faites face à certaines difficultés. Pour vous, c'est quoi les obstacles auxquels vous faites face?
Les obstacles que nous rencontrons, ils doivent manger matin, midi et soir. Il y a des fois où nous ne trouvons pas de quoi leur donner. Parce que par jour, ils mangent 12 kilos de riz. Dans l'apprentissage des petits métiers, nous n'avons pas assez de matériel. Parce que dans la coupe et couture, nous n'avons que 2 machines sur plus d'une 50aine de personnes. Pour ce qui concerne la tricoterie, nous avons une seule machine tricoteuse sur 27 personnes. Il y a aussi l'alphabétisation parce que les enfants en question, ils ont besoin plus de l'éducation.
Akilas Visso, peut-être pour finir, un message à la société.
Un message que j'adresse à la société est de savoir que l'handicapé mental, ou encore communément appelé débile, c'est aussi un humain comme nous.
Akilas Visso, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie beaucoup.
Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au micro, c'était Lievin Mbouinga. Merci également à Martin Sebou-Jangwe, à Élisée Chikota, à Blaise Shindani et à Debs Vita.